danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme. Que tu n'aies pas une peau, que tu te sois tapé Sciences Po, pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face, viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse.
Je suis allé à un débat sur les OGM en Ile-de-France. J'étais dans la salle, et là, à la tribune, il y avait trois personnes. Il y avait un journaliste au milieu, il y avait un agriculteur qui était contre les OGM, mais qui ne savait pas, monsieur, qu'on faisait autre chose avec les OGM que des plantes agricoles. Et puis de l'autre côté, il y avait un scientifique qui, lui, était pour tous les OGM. Mais c'est son droit. Sauf qu'à un moment donné, le scientifique dit à l'agriculteur, « Monsieur, vous êtes diabétique ?» L'agriculteur dit non. Il dit, « Vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, parmi vos amis, votre famille, qui est diabétique ?» Forcément, le scientifique avait plus de chances de gagner qu'au loto. On connaît tous quelqu'un qui est diabétique. Donc l'agriculteur répond oui. Eh bien, il lui dit, « Sachez, monsieur, que s'il n'y avait pas les OGM, cette personne que vous connaissez ne pourrait pas se soigner. Fermez le banc, les OGM, c'est bien. » On n'en parle plus. C'est synonyme de progrès. Et donc, cet agriculteur qui visiblement découvrait ce soir-là qu'on faisait des médicaments avec la technologie OGM a été totalement déstabilisé, totalement discrédité du coup pour tout le reste du débat parce que les gens se sont dit, bah, il n'y connaît rien, alors qu'il avait des arguments extrêmement pertinents sur l'aspect agricole, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect économique, etc. Donc moi, j'étais dans la salle, ça m'a beaucoup énervé. Je me suis levé pour intervenir, mais ce n'est pas aussi facile que quand on est là. Alors j'ai dit, c'est bon, je vais là. C'est comme ça que ça a commencé.
Peu importe les origines, quand le cerveau fait la cuisine, dans les petits plats, nos six boulots, ce qu'on nous sert, c'est comme il faut. Danse, danse, ma jolie.
S'enivrer, mais de savoir, s'abreuver, mais de connaissances, se griser, mais de questions. Voilà ce que vous proposent les moines de l'abbaye du Jouir. Ils reçoivent aujourd'hui en leur bistrot, pour le plaisir de tous, l'ami Christian Vélo.
De l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos, on apprend tout dans nos bistrots. C'est pas le diplôme qui nous motive, ce qui nous sert de locomotive, c'est d'être ensemble et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Hop ! Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.
Merci d'abord d'être venus si nombreux et puis je suis évidemment doublement heureux d'être ici ce soir, heureux parce que c'est toujours un plaisir pour moi de faire des conférences destinées au grand public. Et d'autre part, parce que c'est peut-être la première fois que je fais une conférence dans un tel contexte. Et c'est fort agréable. J'ai la voix chaude en plus maintenant, c'est bien. Et j'étais déjà intervenu dans le cadre d'universités populaires, mais jamais dans une université des bistrots. Avant de vous donner des exemples concrets de ce qu'on fait avec les OGM dans les différents secteurs, et pour justement comprendre en quoi l'introduction des OGM dans les champs et dans les assiettes soulève des questions nouvelles, introduit des risques nouveaux, eh bien, je vais d'abord essayer de rappeler succinctement ce qu'est un OGM. Peut-être qu'il y a déjà des gens ici qui savent relativement bien ce qu'est un OGM. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai toujours l'habitude de rappeler que la reine d'Angleterre est une femme. Donc, je vais redire les choses. Je pense que ça ne fait jamais de mal. Et puis, le problème des définitions, vous savez, c'est comme quand on va chercher un mot qu'on ne comprend pas dans le dictionnaire, il est souvent expliqué par d'autres mots qu'on ne comprend pas. Du coup, on va chercher un petit peu plus loin, puis c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est peut-être le sentiment que vous aurez là quand je vais vous donner la définition officiel d'un OGM, parce que je vais être obligé d'utiliser des mots qui ne vont peut-être pas vous en dire beaucoup plus long. Mais je vais essayer ensuite, très succinctement, de expliciter les choses pour que vous compreniez ce qu'est un OGM véritablement et sur quoi repose la possibilité pour l'homme, le chercheur en particulier, de fabriquer ces fameux OGM. Alors, la définition officielle d'un OGM dit qu'un organisme donc génétiquement modifié, OGM, c'est un organisme vivant. Alors, quand on dit un organisme vivant, on pense tout de suite à un animal, mais ça peut être un végétal, ça peut être un microbe, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, ses caractéristiques génétiques. Et comment a-t-on modifié ces caractéristiques génétiques ? Bien, soit par addition, par remplacement ou par suppression d'au moins un gène de cet organisme. Ça, c'est la définition officielle qui vaut pour tous les OGM, que ce soit des OGM utilisés à des fins de recherche fondamentale, à des fins médicales ou à des fins agroalimentaires. Alors, vous voyez que dans ma définition, pour parler d'OGM, j'ai parlé de gènes. Oui, mais c'est quoi un gène ? Un OGM, un organisme vivant dans lequel on a, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, un certain nombre de ces gènes, soit parce qu'on a inactivé un de ces gènes, soit parce qu'on en a mis un nouveau, un étranger en plus, soit parce qu'on a modifié un gène, etc. Oui, mais le gène, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas vous en donner une définition académique du gène, j'en serais bien incapable, parce qu'il y a autant de définitions du gène que de chercheurs en biologie. C'est une définition extrêmement précaire, qui est sans arrêt remise en question par les connaissances qui s'accumulent. Je vais quand même vous en donner une définition, aussi précaire soit-elle, parce qu'il faut quand même bien qu'on parle le même langage, et c'est la définition qu'on utilise avec nos étudiants. Alors les gènes, pour faire simple, on va dire que ce sont des molécules qui sont codées dans un langage qu'on appelle le langage génétique, qui se trouve sur les chromosomes des différents organismes, et qui détiennent le secret de fabrication des protéines. Et les protéines, ce sont en quelque sorte les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans nos cellules. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer la cellule comme une usine. Chaque organisme vivant est constitué de cellules. Il y a des organismes qui sont constitués d'une seule cellule. C'est ce qu'on appelle des organismes unicellulaires ou monocellulaires. Ce sont certains microbes comme des bactéries, des levures, la levure de boulanger avec laquelle on fait le pain, la bière, le vin, etc. Ça fait au moins trois raisons d'aimer la levure. Et les algues unicellulaires. Puis vous avez des organismes beaucoup plus complexes comme nous les humains, les animaux en général, les plantes, qui sont constitués de milliards de cellules. Les cellules du cerveau, du cœur, du foie, du rein, cellules sanguines, globules rouges, globules blancs, cellules osseuses, fossifères, c'est comme ça, on est un tas de cellules, puis tout fonctionne en harmonie pour faire un organisme entier. La plante, elle a des cellules de la tige, de la feuille, de la racine, et tout ça, ça fait un organisme entier. Chaque cellule qui compose les organismes vivants, c'est comme une usine. Dans cette usine, il y a des ouvriers, il y a des chaînes de montage et de démontage. Ce sont les processus biologiques qui s'activent, là, on ne s'en rend pas compte, mais ça bosse dur. Sur ces processus biologiques, sur ces chaînes de montage et de démontage, il y a des ouvriers qui bossent, qui sont en quelque sorte les protéines, et le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes. Donc quand on modifie un organisme, quand on fait un organisme génétiquement modifié, par exemple, je prends un gène de bactérie et je le mets dans le maïs. Ce n'est pas par hasard que je prends cet exemple-là, parce qu'on va en parler longuement tout à l'heure, mais ça peut être un gène de n'importe quoi dans n'importe quoi. Je prends un gène de bactérie, je le mets dans le maïs. Le langage génétique dans lequel sont codés les gènes est universel dans tous les organismes vivants de la planète. Et donc, du coup, quand je mets un gène de bactérie dans le maïs prend le gène de bactérie à son propre compte, comme si c'était le sien, il le décode, et donc il va permettre de fabriquer les protéines codées par le gène de bactérie. Et du coup, quand je mets un gène de bactérie dans le maïs, j'introduis des protéines bactériennes, donc des ouvriers de l'usine cellulaire bactérienne, dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Et si je mets des nouveaux ouvriers dans l'usine du maïs, ce n'est pas pour qu'ils regardent les autres bosser, c'est pour travailler. C'est-à-dire qu'ils vont participer à des nouvelles chaînes de montage et de démontage qui normalement n'existent pas dans l'usine cellulaire du maïs, ce qui va conférer des nouvelles propriétés au maïs, qui va alors manifester des nouvelles caractéristiques. Et donc ce maïs sera un maïs génétiquement modifié. Et en particulier, on dira de ce maïs qu'il est transgénique parce qu'on lui a mis un gène étranger. Et le gène étranger, qui dans mon exemple provient de la bactérie, s'appelle un transgène. Et la transgénèse, eh bien, c'est l'ensemble des processus qui permet de fabriquer ces organismes transgéniques. Donc les organismes transgéniques, ce sont des OGM, mais qu'on a modifiés, des organismes vivants, donc qu'on a modifiés au niveau génétique, mais par addition d'un gène qu'on appelle un transgène. Voilà. Il y a d'autres OGM, c'est simplement qu'on a inactivé un gène, on n'a pas mis de gène étranger dedans. On a simplement inactivé un gène, c'est un OGM. Mais par suppression d'un gène, pas par addition d'un gène. Voilà, donc ça, c'est la définition globale des OGM. Donc on peut prendre un gène de n'importe quoi, le mettre dans n'importe quoi, et ça va marcher. Quand je dis que ça va marcher, entendons-nous bien. Ça veut dire qu'on va être capable de faire fabriquer par l'organisme receveur les protéines codées par le gène de l'organisme donneur. Par exemple, dans mon exemple, on va être capable de faire fabriquer par le maïs des protéines codées par un gène de bactéries. Hein ? Ça, c'est des choses qu'on va arriver à faire facilement. Maintenant, les conséquences, c'est autre chose. Alors, cette technologie OGM, je vous disais, on l'utilise avant tout comme un outil au service du chercheur. Il faut savoir qu'on fait des OGM dans les labos, on est capable d'en faire dans les labos depuis le milieu des années 70, donc plus de 30 ans. Une trentaine d'années, hein, on va dire. Une grosse trentaine d'années. Et depuis qu'on fait des OGM, depuis qu'on est capable d'en faire, c'est la recherche fondamentale qui a été utilisatrice. La recherche fondamentale, c'est quoi ? C'est comprendre comment ça marche, indépendamment de toute application. En biologie, quand on veut comprendre comment ça marche, on essaie de décortiquer les chaînes de montage et de démontage des usines cellulaires. Que ce soit des usines cellulaires animales, végétales, microbiennes, ça dépend sur quoi on travaille. Et donc, pour décortiquer les processus biologiques, il faut identifier les ouvriers qui bossent, c'est-à-dire les protéines. Et comme le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes, ben, il faut identifier les gènes. Alors, on a des tas de démarches, hein, des tas d'outils pour essayer de bosser, pour essayer d'avancer, pour essayer de comprendre comment ça marche, les gènes, à quoi ça sert, etc. etc. Et parmi ces techniques, il y a la technologie OGM. On va être amené à mettre un gène, par exemple, moi je travaille sur un champignon microscopique du sol, ben je vais être amené à mettre des gènes de mon champignon dans des bactéries pour essayer de voir qu'est-ce que ça fait à la bactérie et pour me donner des pistes sur la fonction du gène du champignon. Par exemple, quand on a un gène qu'on a identifié, mais on ne sait pas à quoi il sert. Hein, on ne sait pas à quoi il sert. Alors, pour identifier ce gène, pour essayer de savoir à quoi il sert, on a une méthode qui peut vous paraître brutale, mais qui est la méthode qu'on utilise. Hein, moi, par exemple, j'y connais rien en mécanique automobile. J'ouvre un capot de bagnole, je vois de la porcelaine blanche, on me dit, ben, ça s'appelle des bougies. Ça me fait une belle jambe, je ne sais pas à quoi ça sert les bougies, je ne sais pas ce que c'est. Puis je ne sais pas que ça se dévisse, puis je voudrais bien savoir à quoi ça sert, parce que je suis curieux. Ben, je prends un marteau, je casse les bougies, la bagnole ne démarre plus, j'en déduis que les bougies, c'est nécessaire à l'allumage. Ben, on a les mêmes démarches, on a identifié des gènes, mais on ne sait pas à quoi ils servent ces gènes. On ne sait pas quel est le secret de fabrication qu'ils détiennent, quels sont les ouvriers qu'ils permettent de fabriquer dans les usines cellulaires et sur quelle chaîne de montage et de démontage travaillent ces ouvriers. Eh bien, on va prendre le marteau et puis on va foutre un coup sur le gène, en gros. Hein, c'est-à-dire qu'on va casser le gène et on va regarder les conséquences. Par exemple, imaginez, on fait ça sur un lapin. On a identifié un gène de lapin. On ne sait pas à quoi il sert le gène de lapin. Eh bien, on inactive le gène et si le lapin il n'entend plus, on dit « Ah, le gène en question devait servir à l'audition. S'il ne voit plus, à la vision. » Si on a identifié, on a inactivé un gène et puis la Société Générale ne fait plus faillite, on dit tiens, ça doit être le gène du trader. Ah oui, donc voilà, c'est la démarche qu'on utilise. Donc ça, c'est des choses qu'on fait souvent. Et quand on inactive un gène dans un organisme, bien sûr, ça veut dire qu'on a génétiquement modifié l'organisme par suppression d'un gène. Voilà, donc on fait des organismes génétiquement modifiés, c'est quelque chose qui est vraiment routinier quand on fait de la recherche fondamentale en biologie. Et c'est important de le savoir, parce que ça permet de comprendre pourquoi un grand nombre de biologistes, en toute honnêteté, vont vous dire qu'il n'y a pas de problème avec la technologie OGM. Il n'y a pas de problème, on fait ça tous les jours en labo. Oui, parce qu'il y a une banalisation du risque. Souvent, ils le disent sincèrement, ils le pensent. Mais parce qu'il y a une banalisation du risque, ce n'est pas propre à la science ou à la technologie OGM. Hein. C'est important de savoir qu'on utilise ça toutes les semaines en laboratoire, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les gènes, les protéines, donc pour décortiquer les chaînes de montage et de démontage des usines cellulaires des différents organismes vivants. Alors, ce n'est pas parce que nous, on fait ça toutes les semaines en laboratoire que c'est bien. Chacun en pensera ce qu'il veut. Ça pose des questions, bien sûr, des questions différentes de celles posées avec les OGM agricoles, mais ça pose des questions. Hein, je veux dire, quand on inactive un gène, quand on utilise la technologie OGM comme un outil, ça a ses avantages, comme tous les outils, ça a ses limites, comme tous les outils. Ça n'a pas d'intérêt si c'est utilisé tout seul, comme tous les outils. Une clé de 10, c'est indispensable, une clé de 10. Mais si vous n'avez qu'une clé de 10 dans la boîte à outils, vous n'allez pas faire grand-chose. La technologie OGM, c'est pareil. Hein. Si on n'a que ça à notre service, on ne va pas aller loin. Parce qu'inactiver un gène de lapin, le lapin, il n'entend plus, en déduire qu'on a touché un gène de l'audition, ça peut être vrai, ça peut être des effets en cascade indirects. Hein. Quand on marche sur la queue d'un chien, le chien, il aboie, on n'en déduit pas pour autant qu'il aboie avec la queue. Donc il faut être prudent et il faut utiliser d'autres techniques à côté qui vont nous permettre d'avancer. Mais c'est un outil intéressant. Et puis ça pose des questions éthiques. Quand on travaille avec un animal comme le lapin en laboratoire, par exemple, ça pose la question de savoir jusqu'où a-t-on le droit d'utiliser l'animal au service de l'homme. C'est-à-dire que ce soit pour acquérir des connaissances nouvelles, comme là, comme ce dont je viens de vous parler, que ce soit pour servir de modèle pour étudier les maladies humaines. Il y a beaucoup de lapins ou de souris transgéniques utilisées dans les laboratoires dans lesquels on a mis des gènes humains pour mimer des maladies humaines et pour tester des nouveaux médicaments. Ou que ce soit encore pour servir d'outil de distraction dans une arène avec un boucher habillé en paillettes. Je veux dire, ça fait partie du débat. Oui, celle-là, j'aime bien la placer, je vous remercie. Donc voilà, c'est vraiment le premier domaine d'utilisation de la technologie OGM. C'est un outil au service du chercheur. Et puis ensuite, il y a eu plusieurs domaines où la technologie OGM s'est déclinée. Donc des domaines d'application, notamment le domaine médical et pharmaceutique depuis le début des années 80. Alors, bien sûr, il y a des animaux, je le disais, transgéniques, OGM, génétiquement modifiés, utilisés dans les animaleries pour servir de modèle pour étudier les maladies humaines, pour étudier le sida, pour étudier l'artérosclérose, pour étudier la mucoviscidose, etc., etc. Là encore, ça pose des questions éthiques, évidemment. Ça a au moins le mérite d'être en espace confiné, en animalerie, ça ne résout pas tout, mais bon, voilà, ça fait partie du débat. Et puis, il y a eu donc ensuite différentes applications à des fins pharmaceutiques et médicales. Alors, je ne vais pas être exhaustif, parce que ce n'est pas le but ici, et puis j'en serais bien incapable d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de facettes d'utilisation de la technologie OGM à des fins médicales ou pharmaceutiques. Je vais vous donner simplement un exemple qui s'inscrit dans un domaine d'activité où la technologie OGM est extrêmement utilisée à des fins pharmaceutiques et médicales et qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Il s'agit de la production de protéines médicaments. Les protéines, je vous l'ai dit, ce sont les ouvriers des usines cellulaires, des humains, des animaux, des végétaux, des microbes. Bon, voilà, elles ont un rôle dans la nature, ces protéines. Parfois, ces protéines, ce rôle naturel, on peut l'exploiter ou le détourner pour en faire un médicament. Et donc, si on doit faire d'une protéine un médicament, comme tout médicament, il va falloir le produire en grosse quantité. Donc, cette protéine, il va falloir la faire en grosse quantité. Or, une protéine, c'est une molécule extrêmement complexe, dont le secret de fabrication est contenu dans un gène, et qu'on ne sait pas fabriquer comme ça tout seul, in vitro, dans un tube à essai. Donc si on veut produire une protéine en grosse quantité pour en faire un médicament, eh bien, on a deux solutions en fait. La première, c'est d'aller la chercher à la source, c'est-à-dire chez l'organisme qui la fabrique naturellement, qui peut être un végétal, qui peut être un microbe, qui peut être un animal, un champignon, etc. Ou alors, la fabriquer par technologie OGM. Et je vais vous donner un exemple, qui est le premier exemple de protéines médicaments qui a été fabriqué par technologie OGM et qui nous concerne véritablement dans la vie de tous les jours, ici pour nos sociétés occidentales en tout cas, c'est l'insuline. L'insuline, c'est quoi? C'est une protéine qui est une hormone. Toutes les hormones ne sont pas des protéines, mais beaucoup d'hormones sont des protéines. Et l'insuline est une hormone protéine. L'insuline, elle est fabriquée par le pancréas et elle permet de réguler le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Le sucre nous est apporté, comme beaucoup d'autres choses, par les aliments. C'est broyé dans l'estomac, ça passe dans l'intestin, de l'intestin ça passe dans le sang, et le sang distribue à toutes les cellules du corps. Il ne distribue pas que le sucre, il distribue l'oxygène et beaucoup d'autres choses. Sauf que contrairement à l'oxygène qui diffuse librement des cellules, du sang pardon, dans les cellules, le sucre non. Le sucre, lui, pour quitter le sang et rejoindre les cellules qui en ont besoin, le cerveau, les muscles, etc., eh bien, il lui faut une aide hormonale, il ne peut pas le faire tout seul, qui s'appelle l'insuline. Donc quand on vient de manger, par exemple, le taux de sucre dans le sang augmente, le pancréas réagit, fabrique de l'insuline qui passe dans le sang et qui va nous permettre de faire passer le sucre dans les cellules qui en ont besoin et de ramener la glycémie, le taux de sucre sanguin, à un taux normal. Malheureusement, on en connaît tous, il y a des gens qui ne fabriquent pas assez d'insuline ou qui ont une insuline anormale. Et du coup, ils ont un taux de sucre dans le sang anormalement élevé pendant des temps beaucoup trop longs, avec les conséquences que vous savez, c'est le diabète insulino-dépendant. Comment faisait-on autrefois, je dis autrefois parce que vous allez voir qu'on fait autrement aujourd'hui, pour soigner ces patients atteints de diabète insulino-dépendant? On ne pouvait pas faire de don d'insuline, et on ne peut toujours pas en faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, tiens, monsieur est en bonne santé, je lui prends son insuline et je la donne à son voisin ou à sa voisine qui est diabétique. On ne pouvait pas faire ça parce que l'insuline, comme la plupart des hormones, on la fabrique juste dans les quantités dont on a besoin. Donc la prendre à un bien portant pour la donner à un mal portant, ce serait déshabiller Pierre pour habiller Jacques. Et donc, ce n'est pas la solution. Et donc, dans ces cas-là, comment on fait? Il faut aller chercher ailleurs. Alors, quand on va chercher ailleurs, ça peut être chez une plante, ça peut être chez un animal, mais évidemment, donc, en général, c'est chez l'animal qui est plus proche de l'homme que la plante. Et quand on va chercher chez l'animal pour traiter un humain, en général, on va chercher chez le cochon ou chez le lapin, qui n'en déplaise, sont les deux animaux qui nous ressemblent le plus, en tout cas du point de vue du fonctionnement biologique. Alors, on est allé chercher chez le cochon, parce qu'il y a très peu de maladies transmises du cochon à l'homme. Et ensuite et surtout parce que l'insuline de cochon ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insuline d'homme. Et donc, les chercheurs et les médecins à l'époque se sont dit, c'est bien le diable si ça ne marche pas. Et effectivement, ça marche. On prend de l'insuline de cochon, on l'injecte à un diabétique insulino-dépendant et on régule son taux de sucre dans le sang. Et on a soigné les diabétiques pendant des années comme ça. Mais ça a fini par causer deux problèmes. Premier problème, l'approvisionnement. Vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés occidentales, vous imaginez le nombre de porcs qu'il fallait zigouiller pour satisfaire la demande. Donc ça, c'était un premier problème. Deuxième problème, qu'on croyait ne pas en être un, la petite différence chimique entre l'insuline de cochon et l'insuline d'homme. Différence que l'on croyait anodine, mais qui s'est avérée ne pas être si anodine que ça. Parce que certains patients qui s'injectaient de l'insuline tous les jours, l'insuline de cochon, voire trois fois par jour, finissaient par développer une intolérance à l'insuline de cochon à cause de la petite différence chimique en question. Et donc, ça a concerné très peu de patients, mais c'était dramatique pour eux, puisqu'ils ne pouvaient plus se soigner. Et vous savez qu'un diabète qui n'est pas soigné, ça peut finir par de la cécité, des amputations, etc. Et donc, la solution, je ne sais pas si je dois dire la solution ou une solution, parce qu'on n'a jamais la certitude avec les technologies, que ce soit la technologie OGM ou autre, qu'on a véritablement choisi celle qui offre le meilleur rapport bénéfice-risque. D'abord parce qu'il y a des effets de mode, la science n'échappe pas à la mode, et ensuite et surtout parce qu'il y a des enjeux financiers énormes et qu'il faut un retour sur investissement rapide et que bien souvent on choisit la technologie qui offre le meilleur retour sur investissement. Toujours est-il que la solution utilisée aujourd'hui pour soigner les diabétiques, c'est la technologie OGM. Comment on a fait ? Bien, on est parti d'un homme en bonne santé, en tout cas pas diabétique, et on a identifié le gène humain qui détient le secret de fabrication de la protéine insuline. C'était dans le milieu des années 70. On a identifié le gène de l'homme qui est responsable de la fabrication d'insuline. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ce gène ? On l'a mis dans des bactéries. Ces bactéries, ce sont des bactéries gentilles, on en a plein l'intestin, bactéries qui vivent avec nous. Donc on en a plein les labos parce que ces bactéries, c'est facile à récupérer, on en a plein les selles. Et on en a plein les labos, enfin pas des selles, mais des bactéries, dans les congélateurs à moins 80. Et donc, on a mis le gène humain de l'insuline dans ces bactéries. Et ces bactéries, on est capable de les multiplier très facilement dans des fermenteurs à une échelle industrielle. Donc, on met ces bactéries dans des énormes fermenteurs de 600 litres avec du sucre, avec de l'azote, avec des vitamines, tout ce que les bactéries ont besoin pour se multiplier. Tout ça thermostaté à 37 degrés, qui est la température de notre intestin, donc la température idéale pour ces bactéries, puisque c'est là qu'elles vivent normalement. Et dans ce cas-là, les bactéries se multiplient toutes les demi-heures. Donc, admettons que vous ayez au départ 1000 bactéries avec le gène humain de l'insuline, qu'on a introduit dans les bactéries. Eh bien, évidemment, ça, c'est que dalle, 1000 bactéries, ça ne se voit même pas l'œil nu. Sauf qu'une demi-heure après, vous en aurez 2000. Une heure après, vous en aurez 4000. Après, vous en aurez 8000. Et quand vous en aurez 1 million, une demi-heure après, vous en aurez 2 millions. Quand vous en aurez 1 milliard, une demi-heure après, vous en aurez 2 milliards. 4 milliards et 8 milliards. Et donc, au bout de quelques jours et quelques nuits, dans des fermenteurs de 600 litres, vous récupérez des dizaines de kilos et des dizaines de kilos de bactéries. Qui, toutes parce qu'elles se sont multipliées à partir de celles de départ qu'avait le gène humain de l'insuline, ont le gène humain de l'insuline. Et comme le langage génétique est universel, les bactéries prennent le gène humain de l'insuline à leur propre compte, le décodent et fabriquent elles-mêmes l'insuline humaine. Du coup, on a des bactéries qui sont des véritables usines à insuline. On va alors récolter les bactéries dans ces énormes fermenteurs, éclater les bactéries, extraire l'insuline, la conditionner sous forme de médicaments et l'injecter, la distribuer à des diabétiques insulino-dépendants via la pharmacie. Donc, bien sûr, ça nécessite bien sûr une ordonnance. Voilà. Donc, si vous voyez que là, on a fait des OGM, puisqu'on a mis un gène humain, le gène de l'insuline humaine, dans des bactéries. Ce sont donc des bactéries transgéniques, le transgène étant le gène humain de l'insuline, qui est donc un gène étranger pour les bactéries, évidemment. Et donc, on a bien des OGM ici. Et s'il y a des diabétiques dans la salle ou si vous en connaissez, on en connaît tous malheureusement, eh bien sachez que ces patients, lorsqu'ils vont à la pharmacie chercher leur insuline, depuis 1982, elle est faite comme ça. Alors, il y a, et pas que l'insuline qui est faite comme ça, aujourd'hui c'est 15% de la pharmacopée. Un médicament sur 6 qui a une barre rouge, c'est-à-dire qui nécessite une prescription médicale, est un médicament qui est fait par technologie OGM. Une protéine qu'on appelle une protéine recombinante. Les protéines fabriquées par technologie OGM s'appellent des protéines recombinantes. C'est-à-dire qu'elles ont été faites par des cellules génétiquement modifiées en laboratoire, donc qui ne sont pas les cellules qui normalement fabriquent cette protéine dans la nature. Comme là, les cellules de bactéries à qui on fait fabriquer une protéine humaine. Et donc, vous avez l'insuline pour soigner les diabétiques, vous avez l'hormone de croissance pour soigner le nanisme, l'EPO, pas seulement pour doper les athlètes, mais avant tout pour soigner les insuffisants rénaux ou les gens qui ont des anémies sévères. Vous avez les interleukines pour traiter le cancer, vous avez les facteurs de coagulation pour traiter les hémophiles, vous avez des anticorps monoclonaux, de toute une tripotée de vaccins, dont le vaccin de l'hépatite B, des vaccins pour les animaux, c'est beaucoup utilisé en clinique vétérinaire. Donc, toute une tripotée de protéines médicaments qui sont faites par technologie OGM. Ce n'est pas toujours dans des bactéries. Des fois, c'est dans des levures de boulanger qu'on est capable de multiplier en fermenteurs comme les bactéries. Des fois, c'est dans des cellules d'ovaire de hamster chinois, l'EPO qu'on est capable de multiplier très facilement en fermenteurs. Par exemple, l'EPO recombinante avec lesquelles se dopent les athlètes et avec lesquelles on soigne les insuffisants rénaux, elle est faite dans les cellules d'ovaire de hamster chinois. Vous avez des cellules d'insectes ou alors des cellules de plantes. On peut très bien faire fabriquer à des cellules de plantes, des cellules de racines ou de tabac, qu'on est capable de multiplier de racines de maïs ou de tabac, pardon, qu'on est capable de multiplier dans des énormes fermenteurs pour faire produire à ces cellules la protéine médicament. Parce que parfois, c'est la cellule de plante qui fait mieux, parfois c'est la cellule d'insecte, parfois c'est la cellule d'ovaire de hamster, parfois c'est la cellule de levure, c'est du cas par cas. Et donc, vous avez toute une tripotée de protéines faites comme ça.
Pas de problème, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Si la terre te colle aux godasses, pas de raison de perdre la face. Viens avec nous, viens au bistrot, tu y trouveras ce qu'il te faut. Danse, danse, ma jolie danse, 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 mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau, et à l'intérieur d'une flamme.
Christian Vélo.
Donc ça, c'est le deuxième domaine. C'est un des aspects du domaine médical, hein, mais ça nous concerne vraiment dans la vie de tous les jours. C'est extrêmement important. Alors pourquoi je vous raconte tout ça avant de vous parler des OGM agricoles? C'est parce que, notamment, on entend toujours dans le débat en disant « Mais les OGM... Vous rendez compte, on fait des médicaments avec, donc c'est forcément le progrès, etc. Et donc, fermez le banc, on n'en parle plus. Hein, c'est le progrès, c'est bien. Ce n'est pas si simple que ça. Parce que les OGM agroalimentaires, on va voir qu'il y a d'énormes différences avec tous les OGM dont je viens de parler jusqu'à présent, que ce soit les OGM utilisés en recherche fondamentale ou que ce soit les OGM utilisés à des fins médicales et pharmaceutiques. Ce que le patient va chercher à la pharmacie, ce n'est pas l'OGM. Ce que le diabétique va chercher à la pharmacie, ce n'est pas la bactérie dans laquelle on a mis le gène humain de l'insuline. C'est ça l'OGM. C'est l'insuline, c'est-à-dire la protéine fabriquée par technologie OGM. Alors ça ne veut pas dire pour autant que c'est formidable et sans risque, mais ça a au moins le mérite, comme tout médicament, d'être évalué de manière très rigoureuse sur des cellules en culture, sur des animaux, puis sur des humains, parce qu'il y a les essais cliniques. Et puis une fois que c'est autorisé, il y a un suivi, parce qu'il y a une ordonnance. Donc on sait qui en mange, on sait qui en mange pas. Et parmi ceux qui en mangent, on sait à quelle dose et à quelle fréquence. Et donc, s'il apparaît un grave problème secondaire plus important que le bénéfice du médicament, eh bien, on a vite fait de faire la corrélation de cause à effet grâce au suivi de l'ordonnance. Et dans le cas de l'insuline, si on peut dire que ça s'est bien passé, c'est pas seulement parce que, on va dire, on a 27 ans de recul, parce qu'entre 82 et 2009, il s'est écoulé 27 ans. Non, c'est parce qu'il y a 27 ans de suivi avec l'ordonnance. Et par exemple, on a pu suivre la première pilule qui était fortement dosée, où on a vu que c'était les filles des premières mamans qui avaient pris cette pilule qui ont eu des problèmes de cancer du sein. Donc on peut même suivre sur la génération suivante. Donc c'est le suivi de l'ordonnance. Par contre, évidemment, ça n'a rien à voir avec les OGM agroalimentaires, où là, ce n'est pas la protéine fabriquée par l'OGM que l'on va manger, mais l'OGM lui-même ou les produits alimentaires dérivés de l'OGM. Et ça, ce n'est pas la même chose. Et de la même manière... qu'on ne peut pas dire, par exemple, que, eh bien, on a un suivi avec les OGM agricoles. Quand on entend, et je l'entends souvent dans les débats, et on l'a entendu il n'y a pas encore longtemps, des scientifiques qui vous disent « Mais regardez, s'il devait y avoir un problème sur la santé avec les OGM agricoles, ça se saurait puisque les Américains, ils en mangent depuis une vingtaine d'années puis il n'aurait jamais rien arrivé. » Alors ça, c'est un énorme mensonge également. Non pas que j'ai la preuve, moi, qu'il est arrivé quelque chose, mais dire... qu'il n'est rien arrivé, parce qu'on n'a rien vu, c'est un énorme mensonge, parce qu'on n'a pas regardé. Et pourquoi on n'a pas regardé? Parce qu'on ne peut pas regarder. Et pourquoi on ne peut pas regarder? Parce qu'il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de suivi. Qui peut dire ici qu'a mangé des OGM ou pas? Personne. Si vous étiez américain, vous pourriez sûrement lever la main sans trop vous tromper. Mais à quelle dose et à quelle fréquence? Quand on voit le mal qu'ont les gens qui ont travaillé 30 ans dans un bâtiment bourré d'amiante à prouver que leur cancer du poumon est lié à ce poison, on imagine le mal qu'aurait quelqu'un qui serait victime d'un problème de santé lié à la consommation d'OGM à prouver que c'est lié à la consommation d'OGM. Étant donné que si les OGM doivent causer des soucis pour la santé, ça ne va certainement pas faire mourir subitement dans un cri de douleur. Ça va être des effets chroniques sur le long terme qui vont être masqués par d'autres effets chroniques dus à d'autres problèmes environnementaux. Donc c'est extrêmement malhonnête de dire ça. Et donc, on ne démontre pas par l'absence, parce que quand on ne voit pas quelque chose, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Par contre, quand on voit quelque chose, on peut affirmer que ça existe. Les OGM agricoles, c'est depuis le début des années 90. c'est quoi la différence avec tous les OGM qu'on utilisait déjà depuis les années 70, c'est-à-dire tous ceux dont je viens de vous parler? Ben, deux différences majeures. Première différence, tous les OGM dont je viens de vous parler sont utilisés en espace confiné, alors que les OGM agricoles, eux, sont destinés par définition à être disséminés dans les champs et dans les assiettes. Donc ça va poser, indépendamment des a priori de chacun sur les OGM, et indépendamment des réponses qu'on va pouvoir apporter, ça va poser des questions d'ordre environnemental et sanitaire qui n'étaient pas posées, ou en tout cas pas de la même manière, avec les OGM utilisés en espace confiné dont j'ai parlé jusqu'à présent. Et deuxième différence majeure, c'est que tous les OGM dont je viens de vous parler, ce sont des outils. Ce n'est pas une fin en soi. L'OGM n'est qu'un intermédiaire dans un protocole. Il n'est pas utilisé en bout de chaîne comme un organisme à part entière. Dans la recherche fondamentale, l'OGM est un intermédiaire dans un protocole. C'est une éprouvette biologique au service du chercheur. Mais ce n'est pas l'OGM en tant que tel qui nous intéresse, c'est l'outil qu'il représente. De la même manière, quand on fait des médicaments par technologie OGM, ce que le patient, encore une fois, va chercher à la pharmacie n'est pas l'OGM, mais la protéine médicament fabriquée par OGM. Donc l'OGM n'est qu'une usine à médicaments, un intermédiaire qu'on va d'ailleurs éclater, donc tuer, pour sortir le médicament qui a été produit dedans. Donc au bout du compte, ce n'est pas l'OGM qu'on va retrouver. Même si, encore une fois, ça ne résout pas tous les problèmes. Mais ce n'est pas la même chose. Par contre, quand on fait un maïs OGM, ou un colza ou un soja OGM, ce maïs, par exemple, on va le semer, on va le cultiver, on va le récolter exactement comme un maïs conventionnel. Il va être mangé par les humains ou par les animaux exactement comme un maïs conventionnel. Et donc, ce qu'on va retrouver en bout de chaîne, c'est des aliments, par exemple, dérivés de ce maïs, dont on ne saura d'ailleurs pas faire la différence entre ceux qui proviennent d'un maïs conventionnel et ceux qui proviennent d'un maïs OGM. Donc, le maïs OGM a exactement le même devenir, je dis le maïs, mais ce n'est pas valable que pour le maïs, bien sûr, a exactement le même devenir que le maïs conventionnel. Donc ce n'est plus un moyen pour arriver à une fin, c'est une fin en soi. Ce n'est plus un outil, on l'utilise comme un organisme à part entière en bout de chaîne. Vous allez me dire, bah, c'est bien gentil, d'accord, mais ça change quoi? Ben, ça change beaucoup de choses. C'est qu'à partir du moment où l'OGM n'est plus un outil, mais un organisme à part entière, ça va poser des questions nouvelles auxquelles on doit être en mesure de répondre avant de faire tout et n'importe quoi. Notamment, est-ce qu'on est capable, oui ou non, de maîtriser les conséquences de la modification génétique qu'on a faite sur le maïs, sur l'ensemble du métabolisme du maïs et ses répercussions dans la chaîne alimentaire? Est-on capable, oui ou non, de maîtriser les conséquences de la modification génétique qu'on a faite sur le maïs, sur l'interaction du maïs avec son environnement? Quand on fait une bactérie qui produit de l'insuline, on n'en a rien à faire si la bactérie n'est pas bien par ailleurs, pourvu qu'elle nous fasse l'insuline et qu'elle la fasse bien. En revanche, quand on fait un maïs génétiquement modifié pour qu'il produise une toxine pour lutter contre un insecte ravageur, je vais y revenir dans un instant, ce n'est pas le tout de lui faire produire la toxine. C'est le cas du maïs Monsanto 810 qui fait l'actualité en France et en Europe actuellement. Eh bien, ce n'est pas le tout de lui faire produire la toxine, ça c'est facile, on va y arriver. La question est de savoir en quoi l'introduction du gène étranger dans le maïs, qui est en l'occurrence un gène de bactéries, aurait-il pu perturber les gènes naturels du maïs? Quelles conséquences sur les usines cellulaires du maïs, sur les chaînes de montage et de démontage à l'intérieur des usines de maïs? Quelles conséquences dans la chaîne alimentaire? Cette toxine qui est fabriquée en permanence par le maïs, que devient-elle chez l'animal qui mange le maïs? Que devient-elle chez l'homme qui mange l'animal qui a mangé le maïs, ou qui boit son lait, ou qui mange ses œufs, ou qui mange sa viande? Cette toxine qui est produite en permanence par le maïs, elle va s'accumuler dans les cellules du maïs, notamment dans les racines. Or, les racines, ce sont des passoires, c'est bien connu. Cette protéine va se retrouver dans le sol. En quelle quantité? Quelle est sa durée de vie dans le sol de cette toxine? Quels sont ses effets sur les microbes du sol, les champignons microscopiques, les bactéries qui vivent au contact des racines et dont on n'en connaît que 5% environ? Quels sont ses effets sur les vers de terre, sur les coccinelles, sur les abeilles, etc., etc.? Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement de cette maîtrise? Alors, vous avez certainement entendu dire très souvent que la technologie OGM était une technologie chirurgicale. C'est très précis. Les mots ont leur importance, parce que quand on dit que c'est de quelque chose que c'est chirurgical, ça sous-entend qu'on maîtrise tout, parce que quand on va voir le chirurgien, on espère bien qu'il maîtrise tout. Hein ? Bien, je peux vous dire que si le chirurgien maîtrisait la chirurgie, comme nous, les généticiens moléculaires, on maîtrise la technologie OGM, je vous souhaite à tout un chacun de ne pas avoir besoin d'aller voir le chirurgien, mais alors là, je vous dirais, n'y allez pas. Hein ? Parce que non, ce n'est pas chirurgical. Je veux dire, quand on met un gène de n'importe quoi dans n'importe quoi, on n'y va pas avec des techniques douces. Hein. Par exemple, pour mettre un gène dans une plante, il y a différentes techniques. Celle qui est la plus utilisée, qui est à l'origine de la plupart des plantes OGM qui sont cultivées à la surface de la planète, c'est la technique suivante qui s'appelle la technique du canon à gènes. Comment on fait? On prend des microbilles, des toutes petites billes qui font un micron de diamètre, un millième de millimètre de diamètre, Et ces billes sont faites de tungstène, d'or ou de platine. Et on trempouille les billes dans la solution qui contient le gène qu'on veut rentrer dans la plante. Et ce gène, le constituant chimique du gène, a une affinité pour le tungstène, l'or ou le platine. Du coup, le gène vient se coller sur les billes. Donc on récupère les billes qui sont couvertes du gène, on met ça dans un appareil qui s'appelle un canon à gène, qui ressemble à un petit revolver, et on bombarde les cellules végétales en culture. Donc les microbilles passent à toute vitesse en travers, puis au passage, il y a éventuellement du gène qui se décroche et qui va se mettre comme il peut dans les chromosomes de la plante. Vous voyez que si vous rentrez dans un bloc chirurgical, vous n'êtes pas encore anesthésié, vous voyez le chirurgien avec ça. Non, ce n'est pas chirurgical. Après, on peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas chirurgical. Évidemment, on ne maîtrise rien avec cette technique du nombre de gènes qui rentrent, des endroits où ils vont se mettre. Alors, on a plus ou moins des possibilités techniques de le vérifier a posteriori, mais on ne saura jamais si le gène étranger n'est pas allé se mettre en plein milieu d'un gène de plante. Donc inactiver un gène de plante ou stimuler des gènes voisins, quelles conséquences ça a sur le métabolisme de la plante, etc. Et puis quand on met des gènes nouveaux dans une plante ou dans un autre organisme, on introduit des ouvriers nouveaux, des protéines nouvelles. Ces ouvriers vont participer à des nouvelles chaînes de montage et de démontage. Mais il y en a plein des chaînes de montage et de démontage dans les usines cellulaires de la plante. Il y a les siennes, celles qui appartiennent à la plante. Quand vous en rajoutez comme ça, vous imaginez une chaîne de montage hein, avec des tapis roulants, des machins, des trucs bien huilés qui fonctionnent. Et puis vous rajoutez tout d'un coup des ouvriers nouveaux qui vont venir faire une opération nouvelle. Je veux dire, ça peut avoir des conséquences totalement inattendues. Et quand on fait des OGM toutes les semaines en labo dans le cadre de nos recherches fondamentales, des exemples d'effets inattendus, on en a des tonnes. Moi, par exemple, je travaille sur un champignon microscopique du sol qui est capable de fermenter des choses dans les feuillus, et il en fait de l'alcool, et il est capable de se nourrir d'alcool. Nous, l'alcool, on est capable de le boire, mais on ne peut pas vraiment s'en nourrir. Lui, oui, il en tire son énergie. Et j'étudie le métabolisme de l'alcool chez mon champignon. Il y a 2 ans de ça, on a fait un champignon OGM pour essayer de comprendre le rôle d'un gène qui est impliqué dans le métabolisme de l'alcool, mais on ne sait pas ce qu'il fait exactement. Donc on lui a foutu le coup de marteau sur la bougie, quoi, en gros. Hein. On a inactivé notre gène de champignon. On a supprimé un ouvrier de la chaîne de démontage de l'alcool dans l'usine cellulaire de notre champignon. Et on a regardé les conséquences. Mon étudiant qui bossait avec moi à l'époque prend le champignon pour l'étudier, et donc il essaie de le croiser avec un autre champignon, parce qu'il a aussi une vie sexuelle, notre champignon. Il lui met un beau petit champignon à côté, il n'en voulait pas. Il me dit, Christian, je ne comprends pas, j'arrive pas à le croiser. Il était devenu stérile. On a touché le métabolisme de l'alcool, le champignon est devenu stérile. Alors nous, on fait de la recherche fondamentale, c'est hyper excitant. On se dit, c'est quoi le lien? D'ailleurs, on s'est amusé très longtemps à dire qu'on étudiait le rapport entre le sexe et l'alcool chez notre champignon. Mais ça montre à quel point on ne maîtrise pas les conséquences. Et des effets comme ça, on en a plein. On nous a fait une pomme de terre transgénique qui résiste à un virus. Ah, elle résiste au virus, mais elle a les tubercules qui poussent en l'air, pourquoi? On nous a fait un melon transgénique qui résiste à une peste. Ah, il résiste à la peste en question, mais il éclate avant maturité, pourquoi? On nous a fait un saumon géant au Canada, qui est sur le point d'être commercialisé cette année. C'est un saumon dans lequel on a bidouillé le gène d'hormone de croissance pour qu'il grossisse plus vite et qu'il devienne plus gros. Au bout de 18 mois d'élevage en pisciculture, il fait 6 fois la taille du poisson normal, du saumon normal. Alors le but, c'est de diminuer justement la durée d'élevage. Eh bien, pour évaluer ces OGM, tous les organismes d'évaluation du monde s'appuient sur une notion qui s'appelle l'équivalence en substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère par principe que l'OGM est équivalent en substance à l'organisme de départ à partir duquel on l'a fait. C'est-à-dire que la différence entre l'OGM et l'organisme de départ, c'est juste le gène qu'on a mis dedans, c'est tout. C'est une absurdité scientifique pour toutes les raisons que je viens d'expliquer. Il n'y a pas un seul scientifique au monde, même Claude, qui est capable de... Il n'y a même plus besoin de dire son nom, c'est ça qui est bien. Qui est capable de recenser ce que peuvent être à court, à moyen ou à long terme les conséquences d'une modification génétique sur un organisme. Et donc ce saumon géant du Canada, d'après l'équivalence en substance, il devrait simplement être plus gros que le saumon normal, puisque le seul gène qu'on a modifié, c'est le gène d'hormone de croissance. Eh bien oui, il est plus gros, mais il n'est pas que plus gros. Il est plus agressif, il a une prédisposition au diabète, et un certain nombre d'entre eux ont la tête déformée. À tel point que les poissonniers au Canada, ils n'en voulaient pas. Ils ont dit, si on met ça sur l'étal, tout le monde va se barrer en courant. Ben, on leur a dit, c'est pas grave, ça va être vendu sous forme de filet. Et la société AF Protéines au Canada, dirigée par M. Fletcher, qui est le scientifique canadien qui a mis ses saumons géants au point, enfin au point si on peut dire, eh bien, il attend l'autorisation de les commercialiser et il espère bien l'obtenir cette année. Ils seront commercialisés uniquement sous forme de filet. Quelle est l'urgence sociale qui justifie qu'on ne prenne pas le temps de comprendre pourquoi, quand on bidouille le gène d'hormone de croissance du poisson, on déforme sa tête? Quelle est l'urgence sociale à utiliser ces poissons géants pour justifier qu'on aille vite dans l'évaluation scientifique et qu'on ne prenne pas le temps? Moi, en tant que scientifique et aussi en tant que citoyen, ça fait partie de l'alerte que je lance, et je ne suis pas le seul, sur la carence d'évaluation des OGM. Et cette carence d'évaluation est d'autant plus grave que 99,99% des OGM, c'est-à-dire la quasi-totalité des plantes agricoles transgéniques qui sont cultivées à la surface de la planète, eh bien, ce sont des plantes pesticides. C'est quoi des plantes pesticides ? C'est des plantes qui accumulent un pesticide. Mais c'est quoi un pesticide ? Un pesticide, c'est le terme générique qui englobe insecticide, fongicide, herbicide, etc. C'est le terme générique. Une plante pesticide accumule un pesticide dans ses cellules. Pourquoi ? Soit parce qu'elle a été génétiquement modifiée pour produire en permanence un insecticide, c'est le cas du Monsanto 810, qui fait la polémique en France et en Europe, qui est la seule plante OGM autorisée à la culture commerciale en Europe. Donc on lui a mis un gène dedans, dans ces plantes, comme le maïs en question, qui provient d'une bactérie du sol, dont les initiales sont BT, bacille de Thuringe. Et donc le maïs OGM en question, on l'appelle maïs BT. Alors il n'y a pas que du maïs BT, il y a du coton BT, du soja BT, de la betterave BT, du colza BT. Donc on a mis un gène de bactéries BT dedans, et du coup, comme le langage génétique est universel, le maïs prend le gène de bactéries à son propre compte, le décode et fabrique lui-même la toxine insecticide. Dans le cas du maïs Monsanto 810, il s'agit d'une toxine qui permet au maïs de lutter contre un insecte ravageur du maïs qui s'appelle la pyrale, qui est un papillon crépusculaire dont la chenille fait des dégâts dans la tige du maïs. Et ça peut redescendre jusque dans l'épi, donc affecter les rendements. Eh bien, voilà, ça, c'est des plantes BT. Donc, ce sont des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour produire en permanence un insecticide. Donc, elles vont accumuler l'insecticide dans leurs cellules, et l'insecticide est un pesticide. Deuxième catégorie, ce sont des plantes qui ont été génétiquement modifiées pour tolérer un herbicide. C'est-à-dire qu'elles auraient dû mourir quand on les arrose avec l'herbicide. Elles ne meurent plus. Donc on les a génétiquement modifiées pour qu'elles puissent tolérer, non pas résister à l'herbicide, mais le tolérer, c'est-à-dire l'absorber sans mourir. Donc l'accumuler dans leurs cellules. Alors c'est les plantes qui tolèrent le Roundup, le Roundup étant un herbicide fabriqué par la société philanthrope Monsanto, qui fabrique les plantes qui tolèrent le Roundup. Et puis, alors ça s'appelle des plantes Roundup Ready, en français prêt pour le Roundup. Et vous avez les plantes qui tolèrent le Liberty fabriqué par la société européenne Bayer, qui fabrique les plantes qui tolèrent le Liberty. C'est vrai que le monde est bien fait des fois. Alors les plantes qui tolèrent le Liberty s'appellent Liberty Linked, en français liées au Liberty. C'est vrai que les communicants sont très très forts. Eh bien, ces plantes-là, bien sûr, elles vont accumuler un herbicide parce qu'elles l'absorbent sans mourir. Et donc ça représente alors les plantes qui produisent un insecticide qu'on appelle les plantes BT, ça fait 20%. Les plantes qui tolèrent un herbicide, ça fait 50%. 50 et 20, ça fait 70. Comment on arrive à 99,99%? Il manque 30%. Bien, les 30%, c'est ce qu'on appelle les OGM de deuxième génération, c'est-à-dire des plantes qui produisent un insecticide et qui tolèrent un herbicide. C'est-à-dire qu'ils font les deux. Et puis troisième génération, des plantes qui produisent deux insecticides et qui tolèrent un herbicide ou qui produisent un insecticide et qui tolèrent deux herbicides. On n'arrête pas le progrès. Voilà. Donc on est encore parti comme ça pour au moins 10 ans si on continue comme on est parti, puisque ce sont essentiellement des plantes pesticides, 99,99% des plantes OGM. Donc la moindre des choses serait que ces plantes soient évaluées, certes comme des plantes, ça le sont, mais qu'elles soient évaluées comme des pesticides, puisque l'animal qui va manger ces plantes va être confronté aux pesticides qui s'est accumulé dans la plante. L'homme qui va manger l'animal, ou qui va boire son lait, ou qui va manger ses œufs, va peut-être être confronté aux pesticides si ce pesticide s'accumule dans la chaîne alimentaire. Donc la moindre des choses serait que ces plantes soient aussi évaluées comme des pesticides, et ça, elles ne le sont pas. Les pesticides, comment sont-ils évalués ? C'est déjà bien insuffisant, mais c'est déjà un peu mieux que les plantes OGM. Les pesticides, c'est légiféré par la directive européenne 91-414 qui dit qu'un pesticide ne peut être autorisé sur le marché que s'il a subi des tests toxicologiques pendant 3 mois sur 3 espèces animales différentes, dont le rat et la souris, le troisième n'étant pas un rongeur, plus des tests à 2 ans sur le rat en plus des tests à 3 mois. Pourquoi des tests à 2 ans en plus des tests à 3 mois ? Parce que 2 ans, c'est la durée de vie d'un rat. Donc ça permet de voir les effets tout au long de la vie. Donc les effets chroniques. Alors qu'à 3 mois, on voit essentiellement les effets aigus. Eh bien, je ne dis pas que c'est suffisant pour les pesticides, parce que les pesticides sont connus pour être des perturbateurs endocriniens, donc la moindre des choses serait de faire des tests sur des femelles en gestation, d'analyser les descendants, etc. Ça a au moins le mérite d'être cadré. On ne peut pas faire moins que 3 fois 3 mois sur 3 espèces animales, enfin 3 mois sur 3 espèces animales, et 2 ans sur le rat. Dans le cas des plantes OGM, qu'est-ce qu'il en est ? C'est la directive 2001-18 qui a été adoptée, traduite en droit français début 2008. Cette directive européenne, elle ne dit pas que les plantes OGM ne doivent pas être évaluées sur le moyen et sur le long terme, mais elle ne définit pas de cadre. C'est à l'appréciation des comités d'évaluation, comme l'Agence européenne de sécurité alimentaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'ancienne commission du génie biomoléculaire et leurs équivalents dans les 26 autres pays européens. Eh bien, aucune de ces organisations n'a jamais demandé, dans le cadre des évaluations officielles, des tests à plus de 3 mois sur une seule espèce animale. Le rat ou la souris. Ça n'a jamais dépassé 3 mois dans le cadre des tests officiels. Ça veut dire qu'on passe systématiquement à côté des effets chroniques. Et cerise sur le gâteau, pour des raisons de secret industriel, ces tests sont faits par les laboratoires choisis par la firme. Et donc, quand on veut avoir accès aux tests, on nous dit non, secret industriel. Aujourd'hui, par exemple, M. Barnier, ministre de l'Agriculture, refuse toujours de nous donner accès aux résultats des analyses de sang des rats qui ont été nourris avec le Monsanto 810, au prétexte du secret industriel. Pourquoi, M. Barnier ? Parce que les tests ont été demandés par l'ancienne commission du génie biomoléculaire qui dépend du ministère de l'Agriculture. Donc, c'est le ministre de l'Agriculture qui doit communiquer ces tests. Eh bien, il refuse de le faire au nom du secret industriel. Tout comme M. Bussereau, en son temps, ministre de l'Agriculture, sous le gouvernement, je ne sais plus, Villepin ou Raffarin, avait refusé de nous donner le résultat des tests sur le maïs de Saint-Ginta, le maïs BT11, qui est un maïs comme le Monsanto 810 qui lutte contre la pyrale, au prétexte du secret industriel. Alors, je fais aussi partie du CRIGEN, le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qui est présidé par Corinne Lepage. Et Corinne Lepage avait donc saisi la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs, en disant, c'est pas normal, c'est un problème de santé publique, on doit avoir accès aux analyses pour pouvoir faire des contre-expertises, etc. Et la CADA a donné raison au CRIGEN et à Corinne Lepage. Donc Corinne Lepage a réécrit à M. Bussereau pour lui dire, ben maintenant, il faut nous donner le résultat des tests à 3 mois sur le maïs BT11. Et M. Bussereau nous a écrit, on a toujours la lettre au CRIGEN, à qui la veut, on peut l'envoyer. M. Bussereau nous a répondu, on ne peut pas vous donner les tests à 3 mois parce qu'ils s'arrêtent à 28 jours. Sur le maïs BT11. D'accord ? Et en ce qui concerne le maïs Monsanto 863, qui lui n'a pas été évalué par la France au départ, mais par l'Allemagne, puisque chaque OGM est évalué par un pays européen au départ différent, puis ensuite c'est transmis aux autres pays européens qui donnent leur accord ou pas, et puis ça remonte à Bruxelles, eh bien c'était l'Allemagne qui a évalué le Monsanto 863. Le Monsanto 863, c'est un maïs BT, comme le Monsanto 810, mais qui, au lieu de lutter contre la pyrale, lutte contre un autre insecte qui s'attaque également aux racines du maïs, qui s'appelle la chrysomèle. Le maïs Monsanto 863 a été évalué par l'Allemagne. L'Allemagne a demandé des tests à 3 mois sur des rats. Monsanto a fait faire ces tests par un laboratoire choisi par Monsanto. Les tests ont été faits là, par contre. Sauf que quand, en Allemagne, différentes organisations environnementales et de défense des consommateurs ont voulu demander d'accéder aux tests, on leur a dit non, secret industriel. Greenpeace ne s'est pas dégonflé, a saisi la Cour de justice allemande et a gagné en appel à Münster en juin 2005. Et grâce à Greenpeace, on a donc pu avoir accès aux résultats des tests. Et comme il n'y a pas l'équivalent du CRIGEN en Allemagne, Greenpeace Allemagne s'est tourné vers le CRIGEN en France en disant « Est-ce que vous pouvez maintenant réanalyser sur la base des données brutes et voir si vous tombez d'accord avec les conclusions de Monsanto ?» Alors c'était 1200 pages de tests qui nous ont été envoyés sur du papier, pas dans un tableau informatique. Donc on a payé quelqu'un pendant 3 mois pour recopier les données. Puis pour vérifier qu'ils ne s'étaient pas trompés, il a fallu revérifier. Bon, enfin, vous imaginez le travail. Donc, et on a refait les analyses derrière. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Ben, on a vu la même chose que Monsanto. C'est-à-dire que sur les 59 paramètres testés, 59, il y en a 39 qui bougent. Monsanto, on avait vu 35. Ça, ce n'est pas forcément malhonnête de leur part, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas utilisé les mêmes méthodes statistiques et ils sont passés à côté de quelques tests, de quelques paramètres qui bougeaient un petit peu moins. Mais toujours est-il que sur les 39 paramètres ou les 35 qui bougent, la plupart sont des paramètres hépatiques et rénaux, donc qui touchent le foie et les reins, qui, comme par hasard, sont les deux principaux organes de détoxification. Alors Monsanto avait vu que ça bougeait. Mais les experts de Monsanto ont conclu la chose suivante. Ces tests sont statistiquement significatifs, mais biologiquement non significatifs. Et pourquoi ont-ils conclu ça ? Conclusion qui a été reprise par l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Pourquoi ont-ils conclu ça ? Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes effets chez les mâles et chez les femelles. Effectivement, c'est ce qu'on a vu. Les femelles qui ont mangé des OGM, par rapport aux femelles qui n'en ont pas mangé, réagissent pas pareil que les mâles qui ont mangé des OGM par rapport aux mâles qui n'en ont pas mangé. Par exemple, on a vu que les femelles qui avaient mangé des OGM ont une augmentation de taux de triglycérides dans le sang jusqu'à 40%. Pas les mâles. Les femelles ont une augmentation de la glycémie. Pas les mâles. Les femelles ont une augmentation de la taille des reins, du foie. Pas les mâles. Les mâles ont une diminution de la taille des reins. Pas les femelles. Les mâles rejettent plus de sodium et de phosphore dans les urines. Pas les femelles. Les femelles ont tendance à grossir. Les mâles ont tendance à maigrir. Donc vous voyez, globalement, c'est bon. Hein ? Prenez un homme, vous lui mettez la tête dans un four à micro-ondes, les pieds dans un bloc de glace, puis vous dites la température sur le nombril est bonne, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Je veux dire, c'est pas sérieux. N'importe quel toxicologue qui voit des effets liés au sexe entre des garçons, des filles, des hommes, des femmes, des mâles, des femelles, suite à un traitement, suite à une nourriture, la première chose qu'il soupçonne, par définition, c'est les voies hormonales sexuelles, qui sont bien sûr pas les mêmes dans les deux sexes. Or, on sait que ces plantes accumulent des pesticides. On sait que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens dans la plupart des cas, donc qui affectent les voies hormonales sexuelles. Eh bien, il n'y a eu aucun dosage hormonal. L'Agence européenne de sécurité alimentaire a donné un avis favorable, puisqu'elle a repris la conclusion des experts de Monsanto. Et comme la Commission européenne, quand elle doit trancher pour autoriser ou refuser un OGM, s'appuie sur la décision de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, eh bien évidemment, elle donne des avis positifs. Le seul moyen d'empêcher ça, c'est qu'il y ait une majorité qualifiée en Conseil des ministres, ce qui n'avait jamais été atteint jusqu'à il y a 3 semaines. Pour la première fois, on a eu une majorité qualifiée en Conseil des ministres de l'Environnement pour soutenir le moratoire autrichien et hongrois. On espère qu'il en sera, enfin j'espère personnellement qu'il en sera de même pour le moratoire français et grec. Mais on a eu pour la première fois une majorité qualifiée, mais avant ça ne s'était jamais vu. Et donc quand il n'y a pas de majorité qualifiée, c'est la Commission européenne qui tranche. Et la Commission européenne tranche sur l'avis de l'EFSA. Et comme l'EFSA donne toujours un avis positif, il n'y a jamais eu d'avis contraire, eh bien c'est des avis positifs qui sont donnés. D'ailleurs, je dis aux gens qu'on a des problèmes de couple, c'est-à-dire qu'on a du mal à s'entendre à deux. Prenez exemple sur l'EFSA, ils sont plusieurs dizaines, ils sont toujours d'accord. C'est formidable. Donc, voilà. Alors, ce qu'on dénonce, nous, je dis nous parce que je ne suis pas le seul à tenir ce discours, ce que nous dénonçons, nous les scientifiques qui alertons sur les problèmes sanitaires des OGM, c'est de dire effectivement qu'aujourd'hui, on a une carence d'évaluation. Alors, il faut être cohérent. Si l'évaluation est insuffisante pour prouver que ce n'est pas dangereux, elle est insuffisante pour prouver que ça l'est. Donc, face aux scientifiques qui disent « dormez tranquille, on s'occupe de tout », comme les gens de l'EFSA l'ont fait il n'y a pas longtemps, nous, on ne dit pas « on a la preuve absolue que c'est dangereux ». On dit simplement « au regard des résultats que l'on a aujourd'hui, à coup de batailles juridiques et administratives à cause du secret industriel », qui sont malheureusement des résultats préliminaires parce que ce ne sont que des tests à 3 mois, insuffisants pour voir les effets chroniques. On a toutes les raisons de s'inquiéter. Et donc on demande soit que l'OGM soit mis au placard par principe de précaution parce qu'il n'intéresse personne, il n'y a pas d'utilité sociale, soit qu'il soit fasse l'objet d'études sanitaires beaucoup plus longues par des laboratoires indépendants jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, que ce soit dans le sens de la toxicité ou dans le sens de l'innocuité. Eh bien non, cet OGM Monsanto 863 a été autorisé à l'alimentation animale en Europe en 2005 et humaine en Europe en 2006. Vous allez me dire, mais il n'est pas cultivé en Europe. Non, mais il est cultivé sur le continent américain et il nous arrive sous forme de produits alimentaires, soit pour les animaux, soit pour de produits faits à partir de ces maïs pour les étals, dans les étals, dans les supermarchés, pour la consommation humaine. Donc voilà, on est dans une situation où on prend véritablement les citoyens pour des cobayes. Alors souvent, les politiques ou les citoyens nous disent, mais nous, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Les scientifiques, vous n'êtes même pas d'accord entre vous. Je comprends ça, j'entends bien. Sauf que la controverse est toujours bonne, y compris dans le monde scientifique. Sauf que dans le monde scientifique, la controverse, on doit pouvoir la lever en prenant le temps de faire des études. Et il est là le problème, c'est que d'un côté, on n'a pas, face aux scientifiques qui disent, qui affirment gratuitement qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de l'autre côté des scientifiques qui affirment qu'il y en a. Il y a des scientifiques qui alertent sur le fait qu'on n'a pas pris les précautions nécessaires pour savoir s'il y en a. Ce n'est pas pareil. Donc on demande simplement la prudence. S'il y avait une urgence sociale à utiliser ces OGM, on comprendrait que l'on aille vite dans l'évaluation parce qu'il y a un bénéfice humanitaire, sociétal évident. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. On n'en est pas là du tout. Le problème, c'est que le temps que demande l'évaluation scientifique n'est pas compatible avec l'urgence des brevets et des profits. Il est bien là le problème. Et donc, voilà, ça, c'est tout ce que nous dénonçons. Alors, bien sûr, il y a aussi les risques environnementaux. On nous a dit que le pollen s'arrêtait à 50 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande. On sait évidemment qu'il n'en est rien et qu'il n'y a pas que le problème du pollen. Il y a le problème des repousses, il y a le problème des pertes des semences des tracteurs, des bennes des tracteurs ou des remorques des camions qui vont se retrouver sous les roues des tracteurs, sous les roues des remorques, sous les chaussures des agriculteurs. Ça va être transporté un petit peu partout. Il y a le transport des graines par les oiseaux et par les rongeurs qui, eux non plus, ne s'arrêtent pas à la barrière du voisin. Donc, outre l'aspect sanitaire, il y a un aspect environnemental extrêmement important qui, en plus, met en péril les agricultures qui ne veulent pas d'OGM et dans le cahier des charges desquelles il est dit zéro OGM parce que la coexistence n'est pas possible. Et la preuve qu'elle n'est pas possible, c'est que pour la rendre possible, l'Europe veut changer les règles de ceux qui ne veulent pas d'OGM dans leurs produits, c'est-à-dire le bio, un certain nombre d'appellations d'origine contrôlée, comme les poulets de Loué, etc. Et donc, effectivement, le seul moyen de rendre la coexistence possible, c'est de changer les règles du jeu. Donc, c'est bien la preuve que dans le respect actuel du cahier des charges de ces labels ou de ces appellations d'origine contrôlée, eh bien la coexistence n'est pas possible. Donc on est véritablement dans une démarche d'agriculture dictatoriale. On nous dit on va faire une loi qui permet à tout un chacun de cultiver avec ou sans OGM. Le problème, c'est que cultiver avec OGM, c'est l'interdiction pour celui qui n'en veut pas de cultiver sans. Et moi, on m'a toujours appris que la liberté des uns s'arrête là où commence celle d'autrui. Donc voilà, on est vraiment... Alors pourquoi ? Évidemment, je vais en conclure là-dessus. Vous, en tant que citoyen, vous pouvez dire, bah tiens, là, on va aller écouter Vélo à l'université des Bistrots qui va nous parler des OGM. C'est un scientifique, donc il ne va pas prendre position. Vous avez vu, je n'ai pas pris position. Alors évidemment, vous pouvez être déçu parce que c'est un scientifique qui devrait expliquer sans prendre position. Alors, évidemment, ce n'est pas ce que j'ai fait et ce n'est pas ce que je cherche à faire, parce que moi, j'en ai marre de cette histoire selon laquelle les scientifiques devraient être des gens qui sont au-dessus de la polémique. Les scientifiques devraient, soi-disant, être des gens neutres. Scientifique, c'est bien connu, c'est bien propre sur lui, c'est neutre. Hein, ça ne fait pas de politique un scientifique, ça ne fait pas de polémique un scientifique. Moi, je suis désolé, ce n'est pas mon discours. Le scientifique, c'est aussi un citoyen. Et je considère que c'est le rôle du scientifique et du citoyen de dire haut et fort quand il considère que la science dérive. Je considère personnellement qu'avec les OGM agricoles, on fait tout et n'importe quoi, qu'on prend les citoyens pour des cobayes, qu'on prend la planète pour une paillasse de laboratoire. Et je veux le dire parce que si dans 30 ans j'ai encore la chance ou la malchance, je ne sais pas, de faire partie de ce monde, je ne veux pas ne plus pouvoir me regarder dans un miroir en me disant « je savais, je n'ai rien dit ». Alors je dis « n'en déplaise à tous ceux que ça pourrait déranger ». Merci.
Danse, ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur une flamme. Que ce soit de l'économie, du virtuel, de l'astronomie, c'est qu'on n'est pas des rigolos. On apprend tout dans nos bistrots.
Cette émission vous est offerte par le Théâtre Éprouvette et l'Abbaye du Jouir. Vous pouvez la réécouter sur le site internet www.théâtreéprouvette.fr.
Ensemble, et bien plus beau, grâce à cette université des bistrots. Danse, ma jolie danse, danse, mon esprit danse. Celui qui danse chemine sur l'eau et à l'intérieur d'une flamme.